The CIUT 89.5 FM Fall Membership Drive is happening November 9th to the 15th. You can donate today by going to www.ciut.fm and making an advance donation. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5, the sound of your city. Toronto.
Ici Madeleine Meyer, ministre déléguée aux Affaires francophones et procureur général de l'Ontario.
Bonjour, mon nom est Jean-Marc Fournier.
Ici Damien Robitaille.
Nous sommes Chloé,
Maxime
et Justine Dufour-Lapointe, skieuse acrobatique.
Ici Jacques Martin, natif de Saint-Pascal-Bellon, Ontario.
Je suis Luc Robitaille des Kings de Los Angeles.
Je suis heureux de participer à ce court témoignage qui permet de saluer 400 ans de présence francophone en Ontario.
Une collectivité francophone qui est ouverte sur le monde parce qu'elle est dans une belle diversité.
Vous êtes clairement des gens d'exception.
On le sait, la présence du français en Ontario remonte à 400 ans depuis que Champlain est allé jusqu'à la baie Georgienne dans le cadre de ses premiers voyages depuis une communauté très vivante, très forte, qui a pris racine et est encore bien là aujourd'hui, 400 ans plus tard.
De nos jours, l'Ontario est fier de compter près de 612 000 francophones. Soit la population de francophones la plus importante au Canada, à l'extérieur du Québec.
On a su résister à travers toutes ces années-là. Et la culture continue, notre langue continue.
Et aujourd'hui, on tient à vous souhaiter un bon 400e!
J'adore mes amis ontariens. Je suis Sammy. C'est du much love.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Adrabe na cosa, ding e dong, ding e dong.
Écoutez la planète chanter.
Action positive présente.
Des préservatifs.
Ouais, mais je sais pas où ils sont.
Oh, est-ce que de toute façon.
Mais non.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez vu, nos deux jeunes amis ont décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés, et ce, malgré les nombreux risques. VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, Erika et Steve, vous risquez tout ce soir.
Capote?
Capote.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, on ne joue pas avec ça, on met un préservatif.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. En direct de la gare Union à Toronto, le train est à la gare, madame, monsieur, le train est à l'heure. 24 auteurs et l'équipe des 24 heures du roman sont au rendez-vous pour décrire cette grande aventure et pour parler du livre écrit pendant le voyage. 400 ans après l'arrivée de l'explorateur Samuel de Champlain en Ontario, ce petit groupe d'écrivains français a suivi les traces de cet aventurier de la première heure. Ils sont franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens. Ensemble, ils ont exploré l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Popourichao est fier d'avoir prêté sa voix à cette expérience historique dans le cadre des célébrations des 400e anniversaire de la présence française en Ontario. Aujourd'hui, je vous invite dans un voyage en première classe de Via Rail avec mes guides et commandants de bord, Anne Forrest Wilson, fondatrice du 24 heures du roman, et Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Bonjour, chers amis. Et je vous invite au voyage. Alors, parmi nos passagers et invités exceptionnels, nous aurons le consul général de France à Toronto, Monsieur Marc Trouet, les écrivains Daniel Soa et Bertrand Laverdure, ainsi que professeur Alain Vercollier. Et si vous souhaitez faire partie de ce voyage historique, un seul numéro tout au long du voyage, c'est le 416-946-7000. Et pour nous mener à bon port, DJ Devera, producteur de cette émission, et au microphone, Eric Kader, 24 auteurs et l'équipe des 24 heures du roman Mission accomplie. L'équipe des 24 heures du roman vous donne rendez-vous et vous souhaite un bon voyage. Et oui, madame, monsieur, cela me fait tellement plaisir d'être des vôtres aujourd'hui en ce 1er novembre 2015. Et nous sommes justement très heureux d'avoir avec nous des invités de marque. Anne Forrest Wilson, bonjour.
Bonjour.
Et Marceline, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement.
Merci.
Je sais que le studio est assez petit, restreint, n'est-ce pas, comme espace. Oui. Mais nous allons quand même, par la magie du téléphone, rejoindre d'autres invités qui nous attendent et qui peut-être aussi nous écoutent en ce moment, n'est-ce pas, Anne?
Alors, j'espère bien.
Vous devez être comblée après cette aventure pleine de succès.
Oui. Je suis
des complète. Retombées, des hauts et des bas, sans doute.
Oh bah des hauts et des bas, il y en a toujours. mais comblé, oui, on a réussi. On a un très très beau livre. C'est une aventure. Je pense que ça va être une grande aventure pour les lecteurs de rentrer dans ce livre, et ils vont faire un beau voyage.
Alors, avant de parler du livre qui va sortir quelque temps, je pense dans quelques semaines.
Le 16 novembre.
Le 16 novembre. Pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous pendant toute l'année, parce qu'il faut bien le dire, nous avons commencé à travailler sur ce projet de partenariat et de promotion des 24 heures du roman. Décrivez-nous un peu le concept, parce que l'idée est un peu folle pour certains.
L'idée est un peu folle, mais je voudrais d'abord dire merci à CIUT de nous avoir accueillis pendant un an, de nous avoir soutenus. C'est agréable d'avoir une radio libre. Enfin bon, en France, on appelle ça une radio libre. Ici, une radio communautaire pour permettre à des gens comme nous de s'exprimer et de montrer ce qu'on fait.
Oui.
Alors le projet fou. Réunir 24 auteurs francophones de toutes les francophonies qui ont été sur le... qui ont croisé le chemin de Champlain, c'est-à-dire la France, puisqu'il est né en France, ensuite l'Acadie, ensuite le Québec, et pour finir en Ontario, avec évidemment des Amérindiens, puisque c'était leur pays avant que Champlain arrive.
Et justement...
Ah oui, d'accord, on les réunit.
Oui.
Alors l'idée folle... La plus grosse folie de toute l'idée, c'était d'imaginer que 24 auteurs pourraient écrire un livre simultanément en possédant et nous redonnant, en écrivant un chapitre chacun.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens ont un bagage culturel très différent, très divers.
Absolument, parce qu'il n'y a rien à voir entre un Français et un Franco-Ontarien. Et, d'ailleurs, les Français ne connaissaient pas l'Ontario. C'était la première fois. Ils sont venus avec les 24 heures du roman, déjà en février, ensuite en juillet, maintenant en octobre, pour la première fois en Ontario. Ils n'avaient jamais été invités ailleurs qu'au Québec.
Donc, c'était tout un défi, sans doute, de réunir ces 24 auteurs écrivains.
Alors, oui, ça aurait pu être un défi, ça aurait pu rater. Et puis, en fait, ça n'a pas été tant que ça un défi. Ça a été une belle aventure, pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de tendresse et une aventure humaine exceptionnelle. Et je pense que c'est pour ça que le livre est réussi, parce qu'ils se sont tous, dès le premier soir, entendu à merveille. Ils ont tous communiqué entre eux. Ils ont tous. On n'avait pas forcément dans l'ordre des chapitres 6 français, 10 ontariens, etc. Ils étaient tous mélangés. Donc, de plein pied, dès le début, ils ont été obligés de s'écouter et de travailler ensemble. Et ils l'ont fait dans une excitation folle. Et ils étaient. Moi, j'avais jamais vu ça, quoi. C'était, on avait la première réunion de travail à l'Alliance française de Moncton. Et ça faisait un bruit pas possible. Enfin, on avait vraiment investi. On n'était que dans 3 salles. Et je disais à Émilie, la directrice de l'Alliance française, eh ben, tu vois, ça marche. Ça fait un brouhaha pire qu'une cour de récréation. Mais, ils étaient, bon, c'est indescriptible.
Alors, nous parlerons aussi de ces commanditaires, des sponsors, des bailleurs de fonds qui ont cru en vous. C'est sûr que vous aurez aimé en avoir plus, mais Viaray quand même s'est embarqué immédiatement.
Viaray s'est embarqué immédiatement et n'a jamais cessé au cours d'un an et demi d'augmenter sa prestation. Jusqu'à nous offrir cette espèce de voyage luxueux un voyage de rêve que beaucoup n'avaient jamais fait, moi y compris, hein. Je pense que personne n'avait voyagé dans des conditions pareilles.
Y compris Champlain.
Ouais. Bon, on l'a beaucoup emmené avec nous, hein. On lui a fait tout partager, on lui a tout montré. Champlain a vraiment beaucoup partagé.
Marceline, vous êtes ici depuis très longtemps, vous voyez évoluer cette communauté francophone qui devient de plus en plus très, très, très diverse. On le sait depuis très longtemps,
oui.
Mais ce n'est que maintenant qu'on voit tout d'un coup professeurs, des politiciens, des journaux, certains médias et des collèges aussi, universités, qui parlent maintenant de cette multiplication d'immigrants francophones. Et même, c'est un enjeu maintenant pour certaines sphères de la société ontarienne, parce que c'est devenu un capital politique, il faut bien le dire.
C'est vrai.
Parce que sans cette base et cette augmentation de communautés francophones en Ontario, on n'aurait pas de public,
oui,
on n'aurait pas d'étudiants dans nos écoles,
oui.
On n'aurait pas de personnes malades qui utilisent les soins de services en santé et en français,
oui,
n'est-ce pas,
oui.
Et tant d'autres. Je peux en énumérer comme ça. Alors vous, au niveau de la culture, vous êtes quand même porté l'étendard de l'audiovisuel au niveau du cinéma, surtout en français depuis 18 ans environ.
Ça fait 20 ans maintenant. Oui.
Qu'est-ce que ça vous dit de retracer justement cette année de célébration de Champlain entre rêve et réalité?
Personnellement, j'ai fêté les 400 ans de Champlain depuis plus de 20 ans, j'avoue. Et dans les écoles, j'ai fait circuler pas mal de choses sur Étienne Brûlé. Donc pour moi, cette année, ça a été une consécration pour la francophonie. Je n'ai pas vu trop de cette célébration s'étendre vers l'anglophonie ou l'allophonie. Je tiens à simplement dire que en 42 ans d'existence quand même ici en Ontario, j'ai vu une évolution extraordinaire même dans les rues, je dirais, de la francophonie, du parler francophone. Quand j'étais venue en 73, parler français dans le métro, dans la rue, équivalait à être un martien. Maintenant, bien au contraire...
On se faisait même rejeter, pour ne pas dire.
Oui, on était extraterrestre, en fait.
Sais qu'au début, dans les années même 70-80,
oui.
On me disait « speak white ».
Ça m'étonnerait pas du tout, ça. Oui, et en fait, c'est pour ça que ces 400 ans, c'est vraiment la consécration de nous en tant que francophones. Et même si on ne s'est pas encore totalement affirmé en dehors de notre francophonie, c'est-à-dire vers les anglophones, c'est un progrès extraordinaire parce que nous avons pris conscience de notre fierté de cet héritage.
Alors, il y a eu beaucoup d'activités. Le ministère de la francophonie, ou plutôt le bureau de Madame Meilleur,
oui.
C'est le bureau, l'office des affaires francophones,
voilà.
Ainsi que le patrimoine canadien. Oui. Ils se sont mariés, comme on dit, pour offrir des jetons à toute la francophonie ontarienne. Donc, c'était très intéressant. Moi, j'ai suivi ça un peu de loin et de près, et de voir qu'à Timmins, à Windsor, à Ottawa, et dans des petits raccoins de la province de l'Ontario, ils célébraient à leur façon la francophonie ontarienne. 400 ans d'histoire.
Oui. Hein?
Est-ce qu'on s'y rend compte?
Bien, oui, 400 ans. Et justement, c'est dans ces recoins qu'on a besoin de s'affirmer. Parce que on n'a pas la reconnaissance nécessairement des médias comme on l'a dans les grandes villes. Donc c'est magnifique qu'on ait donné ces outils à ces petites communautés pour célébrer leur fierté et le maintien aussi. Parce que c'est très très important
d'être un petit peu plus vu, parce que c'est vrai qu'on finit, si on nous voit beaucoup, on finit par convaincre les gens qu'on est là.
Mmh. Oui. Alors, madame, monsieur, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui, en ce 1er novembre 2015. À notre façon, nous disons mission accomplie pour les 24 heures du roman. Et j'ai en ma compagnie dans le studio Anne Forrester-Wilson et madame Marceline, la fondatrice de Ciné Franco. Et justement, nous écoutons la chanson thème « Levons nos voix ». Chanson thème du 400e anniversaire de présence française en Ontario. Que voici.
Je sais qui je suis. grand chemin. Je sais que pour toujours, on est de la family. On vient de partout autour du monde et nous sommes tous réunis ici. Alors encore une fois, il est temps, levons nos voix.
Et oui, mesdames, messieurs, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui en direct de la gare Union Toronto. Le train est en gare, le train est à l'heure et j'ai plusieurs invités très intéressants pour vous tout au long de ce voyage. Et si vous voulez y faire partie, vous pouvez nous téléphoner en direct. C'est le 416-946-7000 ou encore vous pouvez nous envoyer un petit tweet hashtag popourichou en un seul mot ou encore facebook.com. /popourichou en un seul mot et .com et vous allez pouvoir partager vos coups de cœur de ce grand événement, n'est-ce pas, mesdames? C'est quand même un moment historique de pouvoir dire avec fierté que nous pouvons lever nos voix, nos droits, nos bras. Parce que il faut bien rappeler aux gens que c'est aussi de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont lutté avant nous.
Mais je ne peux pas prendre mon vin parce que le train est en train d'être chaotique.
Il y a du rouge, tu vois.
Alors, merci Marcel. Un petit tour dans l'histoire de la communauté franco-ontarienne, à cette communauté qui est présente en Ontario depuis environ 400 ans, n'est-ce pas?
Bah oui.
Et l'établissement de la mission de Sainte-Marie au pays des Hurons en 1639, comté de Simcoe, si vous en connaissez. C'est un des plus anciens, la communauté de la région de sud de l'Ontario, Windsor-Essex-Kent. Cela vous intéresse, c'est pas très loin de la frontière des États-Unis, n'est-ce
oui,
pas?
Oui.
Qui a fêté le tricentenaire de sa présence dans la région en 2001. Et la mission catholique L'Assomption, qui a été fondée vers 1742, Windsor, par la communauté religieuse des Jésuites. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que l'immigration canadienne-française s'étend dans les régions de l'Est comme Ottawa, Prescott Russell, Glengarry, Stormont et du centre-nord, Nipissing et du nord, Témiscamingue. Ces immigrants sont attirés dans les régions nordiques par l'industrie du bois, dans l'Est et au centre, au sud, par l'industrie manufacturière et agraire. Et au fil des ans, plusieurs personnes d'origine ethnoculturelle et des minorités raciales ont lutté sous différentes formes et avec acharnement pour défendre les droits et les intérêts de la communauté franco-ontarienne, de même que pour promouvoir le fait français en Ontario. De plus, elles ont participé à la sensibilisation des Ontariens, Ontariennes et des élus aux différents niveaux de gouvernement pour consolider les acquis historiques des francophones de l'Ontario. C'est incroyable, n'est-ce pas?
C'est un beau parcours, en tout cas.
Oui. Oui. Mais qui est vraiment Samuel de Champlain? C'est un personnage entouré de mystères.
Oui, c'est vrai,
ouais.
C'est vrai.
Samuel Champlain demeure jusqu'à ce jour un personnage entouré de mystères, bien qu'il ait publié de nombreux ouvrages. On ne connaît pas la date de sa naissance. On n'a aucune représentation précise de lui, bien qu'une récente hypothèse de Marcel Trudel laisse croire qu'il ait fait son autoportrait dans la Rose des Vents de la carte de 1632. Cependant, l'un des mystères archéologiques les mieux gardés au Canada serait vraisemblablement le lieu de sa sépulture. Rappelons que Champlain meurt le 25 décembre 1635 et qu'il est inhumé provisoirement dans l'église Notre-Dame de Recouvrance. À l'été 1636, le gouverneur Charles Huot de Montmagny érige une chapelle pour ensevelir la dépouille de Champlain. En juin 1640, un incendie détruit cette chapelle ainsi que la résidence des jésuites et l'église Notre-Dame de Recouvrance. La chapelle Champlain fut reconstruite pour y inhumer François Deré de Gand et le père Charles Rimbaud, respectivement en mai 1641 et en octobre 1642. La documentation, bien qu'abondante depuis 150 ans, n'a pas encore éclairci ce mystère, tout au contraire. La rareté et la difficulté d'interpréter les sources historiques ont amené toutes sortes d'hypothèses plus ou moins plausibles. Cette longue quête commence en 1866 par une fausse découverte du tombeau de Champlain à la Basile de Québec. Un différend sur la paternité de cette découverte entre l'abbé Laverdière et Stanislas Drapeau a donné lieu à ce qu'on a appelé la querelle des antiquaires. Un document trouvé en 1873 dans le fonds Faribault a permis de rectifier cette erreur. Ce document concerne un terrain que s'était réservé en 1649 le gouverneur d'Aibou entre les rues du Trésor et du Fort à la Haute-Ville. Ce terrain est située contre la chapelle Champlain. En 1898, Ernest Mirand dresse un plan indiquant les principaux propriétaires qui s'installent dans ce secteur de la Haute-Ville. Il publie pour la première fois le texte de la concession de 1661 de Mathieu Hubou, qui mentionne également la chapelle Champlain. Mirand constate que la disparition de la chapelle Champlain devient inévitable lorsqu'on redresse la rue du Fort telle qu'elle existe aujourd'hui. Il situe la chapelle Champlain près de la rue du Fort, devant le bureau de poste. En 1909, Pierre Babie-Casgrain reprend le travail de Mirand et situe toujours la chapelle Champlain près de la rue du Fort. Ainsi, les chercheurs Mirand et Babie-Casgrain auraient bien interprété les textes et identifié déjà un secteur proche de celui indiqué en 1988 par Georges Boutier-Larouche et en 1999 par Karl Lavoie. En 1958, Silvio Dumas fait apposer une plaque de bronze sur la Hubuade après avoir fait une fouille des plus hasardeuses. Son hypothèse est basée sur un détail d'un plan de Bourdon de 1663 où il trouve une bâtisse ressemblant à une chapelle. Contrairement à ses prédécesseurs, Dumas situe la chapelle à l'ouest du terrain de Mathieu Hubou. Une autre erreur découle du fait qu'il part du cadastre actuel. Il oublie que, en 1661, le terrain de Hubou occupait plutôt ce site. La rue du Fort était bien à l'oblique à cette époque. De fait, la chapelle s'avère être à l'est du terrain de Hubou et non à l'ouest. De plus, Dumas pense avoir trouvé les fondations de la maison Dubeau sur les fondations de la chapelle Champlain. Cependant, selon le plan de Michel Gaumont, publié en 1976, la maison Dubeau se situait bien près de la rue Buade. Cette fouille de Silvio Dumas.
The CIUT 89.5 FM Membership Drive is coming November 9th to the 15th. If you become a member before November 9th, you'll get entered into an early bird draw for a chance to win a Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Go to www.ciut.fm for more information and to donate. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The 23rd Annual Rendezvous with Madness Film Festival, November 6th to 14th, continues to revel in the mysteries of the mind, exploring the facts and mythologies surrounding mental illness and addiction through film, art, and panels. Visit rendezvouswithmadness.com for information.
Did you know there are now 8 different ways in which you can listen to your favorite programs on CIUT? From Barrie to Buffalo, Kitchener to Coburg, you can pick us up on 89.5 FM.
We also stream online at www.ciut.fm, on Rogers Digital Cable, Channel 946, Channel 970 on Bell 5 TV, Star Choice Satellite offers CIUT on Channel 826, and you can pick us up on the TuneIn Radio app and under College and Campus Radio on iTunes. Finally, you can listen or download CIUT program archives at CIUT.fm. CIUT 89.5 FM, delivering the new sound of your city everywhere.
Vous écoutez Potpourri sur CIUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Et oui, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes dans un train, justement, à la gare Union, et je suis en compagnie de deux charmantes voyageuses. Marceline, c'était justement pour replonger un peu dans l'histoire, parce que on dit que Champlain, Samuel de Champlain, était dessinateur, géographe, explorateur, fondateur de Québec en 1608. Est-ce que les francophones d'ici, les franco-ontariens, sont au courant, justement, de cette histoire, de son passage en Ontario?
Moi, je n'en suis pas très sûre de ça. Moi-même, j'avoue une certaine ignorance et je ne sais pas, en fait. On n'en parle pas assez dans les écoles. Enfin, voilà, je crois que... Oui, vas-y, oui. j'ai fini.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marcel. On n'en avait jamais entendu parler, quasiment. Les anglophones à qui j'ai pu parler ne savent même pas qui c'est. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je pense que... Je veux pas vendre notre livre à tout prix, hein, mais justement, il y a tout un tas de discours de professeurs d'histoire qui font qu'on se souvient de très, très peu de choses. Et c'est, je crois, la force du roman qui a été écrit là, c'est que ils se sont énormément documentés, donc ils connaissaient l'histoire, mais ce ne sont pas des historiens, ce sont des écrivains qui ont parlé de tout ça et qui ont fait vivre l'époque. Et quand on plonge dans ce livre, de chapitre en chapitre, on découvre des choses nouvelles, que ça aille des chutes d'eau, l'enfance de Champlain, de la vie, de l'ordre du bon temps, de tout ce qui faisait l'épaisseur en fait de cette toute petite communauté de l'époque. On le croise à un moment ou à un autre dans ce livre, et les croyances de l'époque, les autochtones, puisqu'on en avait deux qui se sont exprimés. Et je pense que c'est la toute première fois qu'on a donné la parole à des autochtones pour parler d'eux-mêmes. Et c'était très important pour
moi. Et d'ailleurs, beaucoup trouvent qu'on n'a pas justement donné assez de place à la communauté autochtone dans les célébrations du 400e anniversaire.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Alors, nous avons monsieur le consul général de France, monsieur Trouet, qui nous attend. Nous allons aussi parler de ces magnifiques cartes que j'ai en face de moi. D'ailleurs, si vous voulez gagner des cadeaux, madame, monsieur, tout en participant et vous plonger dans l'histoire des célébrations du 400e anniversaire. Alors, des cartes qui sont dans les deux langues officielles, d'ailleurs.
Oui, anglais et français. Oui. C'est un jeu bilingue.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le jeu? Bon, c'est encore...
Le jeu, c'est une autre façon, en fait, d'explorer l'histoire. Alors, c'est destiné plutôt aux enfants, mais en fait, on s'est aperçu que les parents des enfants aimaient beaucoup aussi. Et ça nous fait découvrir qui étaient les colons, qui étaient les Premières Nations que Champlain a croisées, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, quels étaient les animaux présents au Canada en 1615, qu'est-ce qui étaient les objets marquants de la vie quotidienne et quels étaient les lieux, alors là, complètement historique, les lieux mythiques de Champlain, de sa naissance à son arrivée au lac Simcoe.
Champlain en Amérique, le premier constat.
Jamais Samuel de Champlain n'avait imaginé que sa vie pourrait finir ainsi. Blessé, poursuivi, égaré en pleine forêt.
Aïeux ! Où êtes-vous ?
Jusqu'en 1615, Champlain a cartographié de vastes territoires en Amérique du Nord, là où aucun autre Européen n'avait osé s'aventurer. Mais ce jour-là, sans guide ni boussole pour lui venir en aide, il ne peut se fier qu'à son instinct et à sa connaissance de la forêt pour retrouver sa route. Ou c'est la mort assurée.
Émission spéciale, aujourd'hui nous célébrons le 400e anniversaire de présence française en Ontario, 24 heures, et l'équipe des 24 heures du roman sont au rendez-vous pour décrire cette grande aventure et pour parler du livre écrit pendant le voyage. Les 24 heures du roman, une aventure littéraire et ferroviaire présentée par Écriture en mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Ça, c'est la petite publicité qui a marché, n'est-ce pas ?
Vous avez aimé ? Pendant toute l'année.
Oui. Alors, nous allons passer au consul, mais nous allons essayer de trouver si le train est arrivé. Et oui, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur le consul général de France à Toronto qui est avec nous dans ce grand voyage, n'est-ce pas, pan-canadien, on pourrait dire, de Via Rail.
Pan-canadien de l'Est.
Monsieur Trouvé, bonjour.
Bonjour à tous.
Oui, et nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres ce matin. Merci de nous accorder un peu de temps. Alors, est-ce que vous avez été justement impliqué dans ces festivités? Parce que je sais qu'il y a une relation quand même assez particulière. Hein. Il y a l'amitié, mais aussi au niveau des affaires, au niveau économique. Il y a beaucoup d'échanges entre l'Ontario et la France. Mais parlons surtout du 400e anniversaire.
Alors, on a été impliqué dans le 400e, mais là, par rapport au roman, le consulat général de France a été un partenaire dès le début de cette aventure, avec un soutien apporté à Écriture en mouvement et une présence jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée effectivement des romanciers dans le train, à Union Station, à la station centrale.
Oui, et je pense que la directrice et fondatrice de 24 heures du roman, on était vraiment très 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 heureuse parce que vous avez vraiment impliqué votre personnel, mais aussi même votre résidence pour justement promouvoir ce projet extraordinaire.
Absolument, c'est un projet qui a séduit mon prédécesseur d'abord. Parce que il était original d'avoir un roman écrit en 24 heures sur les traces de Champlain, parce que il était emblématique aussi de cette relation particulière que la France a avec la francophonie ici au Canada, et parce que au final c'était un projet littéraire de qualité.
Alors Anne, vous avez sans doute quelques éloges ou quelques remerciements à faire au consul.
Ma gratitude éternelle. J'ai effectivement été très 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 appuyée par Jean-François Casabonne Mazonave quand il était consul ici jusqu'à août dernier, et puis par Monsieur Marc Trouillet dès qu'il est arrivé. Ça a été un partenariat absolument fantastique. Ils étaient toujours présents. Ils ont ouvert leurs portes, comme vous dites, les portes de la résidence. Ils nous ont vraiment appuyés à fond jusqu'à être présent à l'arrivée, et ça m'a énormément touchée en tant que Française particulièrement, et ils ont embrassé ce projet avec brio, et je leur en suis très très reconnaissante.
Alors il faut rappeler aux gens que vous-même, Anne, vous êtes ici depuis quelques années seulement.
7 ans.
7 ans environ, et nous voyons, n'est-ce pas, Marcel Lynn, ça prend du temps avant de faire sa marque et de laisser des traces dans le sable ou la neige.
Oui, parce qu'il faut comprendre aussi le contexte où nous vivons.
Voilà, et je pense que ça a été un peu difficile, il faut bien admettre. Il y avait des obstacles, de l'incompréhension, parce que personne ne comprenait votre projet au départ.
C'est-à-dire, il y a eu de l'enthousiasme depuis le début. C'est un petit peu du côté financier qu'ils ont eu un peu plus de mal à plonger.
Et la France est embarquée.
Et la France s'est embarquée d'une manière absolument phénoménale. Côté budget, la France a énormément contribué. Et ça m'a fait aussi très très plaisir. Personnellement, j'étais très fière.
Monsieur Trouet, depuis que vous êtes arrivé ici, ça fait pas très longtemps, vous devez voir, et vous apprenez sans doute de jour en jour cette richesse dans ces relations entre la France et l'Ontario, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de la francophonie en France ou dans d'autres pays, on pense tout de suite au Québec, n'est-ce pas?
Et, absolument.
Oui, et ici, on voit qu'il se développe des choses extraordinaires, hein.
Ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est la vivacité de la francophonie en Ontario. Et oui, ça fait pas très longtemps que je suis ici, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre antenne. Cette francophonie en Ontario, et même au-delà, dans l'ensemble du Québec, est extrêmement vivante. Deux éléments là-dessus. Le premier, pour dire que les consulats de France au Canada, que ce soit mon collègue à Moncton ou ma collègue à Montréal, était aussi partie prenante de l'aventure des 23 heures du roman. Au départ du train, au départ à Halifax, Moncton, et ensuite lors de son passage à Montréal. Donc c'était un projet qui a reçu un soutien à travers l'ensemble des représentations consulaires, précisément parce que il a traversé cette grande diversité des francophonies qui n'est pas qu'au Québec. La francophonie, c'est effectivement dans l'ensemble des provinces du Canada. Et puis, la deuxième élément sur cette diversité et cette vivacité, c'est aussi au-delà de la francophonie des franco-ontariens, des Québécois, c'est aussi évidemment celle des Français, mais aussi celle des francophiles qui aiment la francophonie et que l'on a vu y compris lors des manifestations du 400e anniversaire du fait francophone en Ontario, la présence et la participation des francophiles anglophones à cette célébration.
Et je pense que ces célébrations nous ont permis de reconnaître que l'histoire de la présence française en Ontario débute avec les explorations du jeune Étienne Brûlé en 1610 et l'établissement de la première mission jésuite à Sainte-Marie au pays des Hurons en 1639. Les Français sont les premiers Européens à révéler les ressources naturelles et économiques du territoire qui deviendra l'Ontario et à nouer des alliances avec, je dis bien, les autochtones.
Oui, oui.
C'est effectivement une des choses remarquables que l'on apprend ici en Ontario, mais j'étais cette semaine au Manitoba et on retrouve à peu près la même histoire, c'est que les Français ici au Canada, que ce soit ce qui allait devenir l'Ontario ou au Manitoba, ont su s'intéresser véritablement aux peuples autochtones, aux Premières Nations, ont su essayer de comprendre ce qu'ils étaient et ils se sont même mariés avec effectivement ces peuples autochtones pour beaucoup d'entre eux et ils ont fondé des familles, ils ont eu des enfants et donc on a eu effectivement une rencontre exemplaire peut-être ici au Canada.
Justement, on a un chapitre qui est une des écrivains, Marie-Josée Martin, qui nous raconte le mariage de son aïeul, qui était Abénakis, avec un Français.
C'est merveilleux, hein, comme histoire. Et on oublie souvent tout ça dans cette histoire. On célèbre à 400 ans, mais il n'y a pas que la musique, que la chanson, mais il y a aussi des générations et des générations et des peuples qui se sont... il y a eu des recoupements.
Qui se sont mariés, qui ont créé de nouvelles générations d'êtres humains qui se posent des questions. Moi, je pense qu'on vit une période intéressante, justement, ce 400e, s'il a pu apporter qu'on se pose un peu plus de questions sur d'où on vient quand on vient d'ici. Alors, évidemment, moi, je ne viens pas d'ici, mais moi, j'ai écouté tout ce qu'ils avaient à dire. J'ai écouté les autochtones, j'ai écouté ces auteurs qui ont pu avoir des relations parce que dans leur famille, il y a quelqu'un qui est autochtone. C'est allé beaucoup plus loin et je trouve ça d'une richesse extraordinaire. Il faut gommer personne et ils ont tous, il y a une richesse fabuleuse en chacun d'entre nous et les autochtones, moi, me fascinent. Ils ont une vivacité, ils sont ancrés dans une réalité qui est un peu différente de la mienne, par exemple.
Et vivant en harmonie avec la nature.
Et voilà, moi, voilà. Ça m'épate beaucoup, ouais. Ça m'épate beaucoup leur capacité à être toujours eux-mêmes, et je trouve ça formidable.
Monsieur Troué, vous savez, à votre niveau, vous avez quand même un statut où les gens reconnaissent cette autorité, hein, quand même, comme un peu dans les ministères. Madame Meilleur, par exemple, qui est allée en France pour faire connaître à l'Ontario. Est-ce que vous, à votre niveau, justement, avec ce que vous venez de vivre, sans doute, il y a eu beaucoup d'émotions chez vous et votre personnalité. Est-ce qu'il va avoir un suivi, justement, pour sans doute approfondir les relations au niveau éducation, au niveau culturel, au niveau échange, y compris avec les autochtones, entre la France et l'Ontario? Pensez-vous que c'est un rêve, c'est de l'utopie, ou qu'on peut poursuivre, justement, certaines initiatives à partir des célébrations de 400 ans?
C'est un vrai projet politique, c'est un vrai projet culturel, c'est une nécessité et c'est un plaisir. Oui. Donc oui, nous allons poursuivre dans le domaine de l'éducation. Il y avait la semaine dernière, par exemple, ici en Ontario, mais aussi au Manitoba, mais aussi dans d'autres provinces, il y avait des responsables de l'éducation nationale française qui sont venus faire des stages d'immersion dans des conseils francophones, conseils scolaires francophones, justement pour échanger des bonnes pratiques, et il y aura un déplacement à part de ces mêmes conseils ou de responsables du conseil francophone en France. Donc voilà, pour le domaine éducatif, on fait cela. On souhaite pouvoir accompagner ici en Ontario, mais également dans d'autres provinces, les programmes, les politiques de français en classe d'immersion. C'est, comme je vous le disais aussi, là aussi, une des richesses de ce pays, c'est l'intérêt des francophiles anglophones pour la langue française. Donc il faut l'accompagner, il faut la soutenir. Vous avez parlé des effectivement des peuples des Premières Nations, oui bien sûr aussi. Il y a là également une ouverture, une inclusivité à avoir vis-à-vis de leur langage. Et là, de ce point de vue-là, on a le projet au consulat de projeter ou en tout cas de discuter autour d'un documentaire assez fantastique que je vous recommande, qui s'appelle L'Empreinte, de Carole Pouliquen et Yvan Dubuc, qui parle justement de cette rencontre entre Français et peuples des Premières Nations. Donc voilà, il y a beaucoup de projets et beaucoup de volonté de notre part de continuer à explorer ces relations.
Et c'est pas de votre faute ni la faute de la France, mais ici au Canada, dans notre petit milieu politique, souvent dans nos communautés, on parle des deux langues officielles ou des deux nations, ou je sais pas. Et souvent, on oublie qu'il y a les Premières Nations, c'est eux qui étaient là avant. Est-ce que justement dans ce livre, dans ce projet de 24 heures du roman, on reconnaît que les autochtones étaient là avant les Européens?
Oui, absolument. Oui, ouais, c'est très très présent.
Parce que souvent, même au sein de la communauté francophone, on parle de dualité linguistique et on parle de la présence des deux peuples fondateurs. Et souvent, on omet dans certains cursus, que ce soit universitaire ou d'histoire, la présence.
Et comme je vous l'ai dit, dans le roman, on a deux autochtones qui s'expriment, qui jouent le rôle des autochtones. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'au cours du livre, on a plusieurs écrivains, dont un Français, qui se sont mis dans la peau d'un autochtone. C'est-à-dire qu'on a, au moins quatre récits qui sont du point de vue des autochtones. Et je pense qu'on a rarement vu ça. Et c'est vrai que de discuter entre eux, de vivre ensemble, parce qu'on a vécu ensemble pendant 4 jours, tout le monde s'est découvert. Et bon, pour les Français, c'était probablement la première fois qu'ils travaillaient avec des autochtones. Bon, on n'en a pas en France, donc c'était effectivement un défi, étant donné que c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de vraiment parler avec des autochtones.
Notre invité, madame, monsieur, Monsieur Marc Troué, qui est le consul général de France à Toronto, pas très très longtemps d'ailleurs, 1 mois et demi, 2 mois maintenant peut-être que
deux
vous êtes
mois,
ici, voilà,
ça.
2 mois. Et rapidement, pour les auditeurs qui nous écoutent à l'étranger ou ici sur Internet, il y a des échanges économiques aussi très importants, hein, entre l'Ontario et la France.
Ce sont des échanges économiques qui sont importants, qui demandent à croître, mais qui se manifeste par exemple par la venue d'entreprises françaises. Il y a 15 jours, à Mississauga, j'ai eu le plaisir de participer à l'inauguration d'un investissement français, d'une entreprise pharmaceutique française qui vient s'installer ici en Ontario parce qu'il y a une qualité des soins, de la recherche et des hôpitaux dans lesquels faire des essais cliniques importants. Donc oui, il y a beaucoup d'investissements français ici en Ontario.
Alors, pour terminer, peut-être vos vœux à ces francophones, ces francophiles qui nous écoutent et ces jeunes surtout. Qu'est-ce que vous leur souhaitez, monsieur le consul ?
Je leur souhaite d'abord de continuer à jouir et du plaisir de parler en français dans une province qui a de fait une politique active pour permettre cette expression. Donc il faut la continuer de soutenir cette politique. Deuxième souhait, c'est d'avoir une francophonie heureuse, inclusive. La francophonie, ce n'est pas un espace d'enfermement, c'est un espace au contraire d'ouverture vers le monde, vers la pluralité des francophones. On a également la chance ici en Ontario d'avoir une immigration francophone qui vient des quatre coins de la planète. Ça aussi, c'est une chance pour l'Ontario, c'est une chance pour la francophonie. Il faut s'ouvrir également à cette francophonie-là, comme à celle des anglophones francophiles.
Très bien. Alors, on va se revoir sans doute très prochainement. Je vais vous laisser retourner à vos activités
dominicales.
Alors, bien le bonjour à la famille et on se revoit très prochainement. Et merci mille fois encore pour votre dévouement, pour votre contribution et votre intérêt à nos projets.
Écoutez, j'ai avec toujours un grand plaisir que je participe à vos émissions et que je continuerai à le faire si vous m'y invitez.
Allez, au revoir. Bonne célébration.
Au revoir. Bon dimanche.
Merci.
Ici Madeleine Meyer, ministre déléguée aux affaires francophones et procureur général de l'Ontario.
Bonjour, mon nom est Jean-Marc Fournier.
Ici Damien Robitaille.
Nous sommes Chloé,
Maxime
et Justine Dufour-Lapointe, skieuse acrobatique.
Ici Jacques Martin, natif de Saint-Pascal-Bellon, Ontario.
Je suis Luc Robitaille des Kings de Los Angeles.
Je suis heureux de participer à ce court témoignage qui permet de saluer 400 ans de présence francophone en Ontario.
Une collectivité francophone qui est ouverte sur le monde parce qu'elle est dans une belle diversité.
Vous êtes clairement des gens d'exception.
On le sait, la présence du français en Ontario remonte à 400 ans depuis que Champlain est allé jusqu'à la baie Georgienne dans le cadre de ses premiers voyages depuis une communauté très vivante, très forte. Il a pris racine et est encore bien là aujourd'hui, 400 ans plus tard.
De nos jours, l'Ontario est fier de compter près de 612 000 francophones. Soit la population de francophones la plus importante au Canada, à l'extérieur du Québec.
On a su résister à travers toutes ces années-là, et la culture continue, notre langue continue.
Et aujourd'hui, on tient à vous souhaiter un bon 400e!
Émission spéciale dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire sur CUT 89,5 FM Toronto. Pour nous joindre tout au long de l'émission, 86 946 7000. Collaboration spéciale aujourd'hui, les 24 heures du roman. Et en compagnie de Marceline de Ciné Franco. Entre 1910 et 1960, les francophones de l'Ontario mettent sur pied de nombreuses organisations pour défendre leurs droits et promouvoir leur culture. Ces années voient notamment la création de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, de la première caisse populaire francophone en 1910 et du quotidien Le Droit en 1913. À partir de 1969, les lois ontariennes autorisent les écoles de langue française aux paliers élémentaires et secondaires. Et en 1970, l'administration des services en français au niveau du gouvernement s'organise avec la création du bureau du coordonnateur provincial des services en français qui deviendra l'Office des affaires francophones en 1985. Au niveau culturel, les années 70 sont une période d'effervescence artistique, en particulier dans la communauté de Sudbury. Le drapeau franco-ontarien est créé et hissé pour la première fois devant l'université de Sudbury le 25 septembre 1975. L'anniversaire du drapeau est depuis devenu une date symbolique pour la communauté franco-ontarienne et est célébré chaque année.
Alors justement, Marcel, vous aimez l'art, vous aimez les arts et vous aimez la peinture. Et je pense qu'il y a des œuvres d'art extraordinaires qu'on ne connaît pas assez.
C'est vrai. Moi, j'ai été guide à McMichael Gallery. Et effectivement, il y avait des sculptures et des peintures superbes des Premières Nations. Et il y a un programme scolaire, mais c'est très très important, en parlant justement de cette rencontre de la France, du francophone, des franco-ontariens avec les Premières Nations, que nous ici nous explorions justement ces très belles œuvres qui nous parlent, qui racontent l'histoire également des Premières Nations et qui les revendiquent. Il y a également un très bel espace pour les Inuits à McMichael. AGO, c'est pareil. Moi, j'encouragerais vivement tous ceux qui sont intéressés par ces rencontres francophones avec les autochtones d'aller explorer l'histoire à travers l'art.
Alors, voilà, le message est passé. Nous allons passer tout à l'heure avec un autre écrivain qui est très connu, il est aussi traducteur, je pense, et ma mémoire est bonne. Et il est ici depuis très longtemps, français d'origine, Daniel Soa, qui peut-être nous écoute, à qui nous disons bien le bonjour, sera dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous invite à écouter justement un chant iroquois que j'aime particulièrement. Et c'est pour rendre hommage justement aux Premières Nations, à tous ces gens qui sont souvent méconnus. Et on voit encore, malheureusement, en 2015, il se passe encore des débats sur la communauté autochtone dans certaines régions dans le nord du Québec. Et ici aussi, en Ontario, il faut bien admettre, dans Kenora, Dryden, dans tous ces endroits que j'ai eu l'occasion de visiter, il y a encore des autochtones qui n'ont pas d'électricité, par exemple, qui n'ont pas d'eau potable. Et pour moi, je trouve ça inadmissible.
C'est une tragédie.
En Ontario. Oui. Alors, donc, il faut toujours se rappeler que l'égalité des chances, l'égalité des droits, droit à la vie, et n'est pas justement respectée partout. Oui. Et donc, il y a encore du travail à faire, n'est-ce pas?
Certainement.
Alors, à vous, messieurs les politiciens, à vous, messieurs qui ont le... ou mesdames aussi, qui ont le pouvoir de changer les choses. Le message est passé. Émission spéciale, madame, monsieur, dans le cadre de... célébration de 400e anniversaire, 400 ans déjà, c'est incroyable. Sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Kayouani, Kayoué, Kayouani, Kayoué, Weiyo, Hawi, Hawi, Negaï, Nawi, Haheya.
Kayouani, Kayoué, Kayouani, Kayoué, Weiyo, Hoi hoi ne ka na we ahe ya.
Kayuani kayuwe, kayuani kayuwe, wehi yo ho, hoi hoi ne ka na we ahe ya.
Kayuani kayuwe, kayuani kayuwe, wehi yo ho, hoi hoi ne ka na we ahe ya. Kayuani kayuwe, kayuani kayuwe, wehi yo ho, hoi hoi ne ka na we ahe ya.
Émission spéciale dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire à l'antenne de CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Et oui, vous connaissez TV Ontario. Vous êtes dans le domaine de l'audiovisuel et vous avez siégé quand même sur des comités, n'est-ce pas, pour vérifier les films. Comment on appelle ça, des comités de...
C'est la commission de contrôle cinématographique de l'Ontario.
C'est-à-dire, c'est vous qui décidez si le film est pour un public adulte ou pour les jeunes, n'est-ce pas? C'est vous qui par la magie, n'est-ce pas? Vous enlevez les
Ah non, non, plus, les... non, plus de censure. Terminé, plus de censure.
Madame la censure.
j'étais contre la censure.
Alors, pour rappeler aux gens qu'à partir de 1980, TV Ontario a commencé à offrir une programmation en français. On oublie, hein. Oui, c'était toute une bataille, n'est-ce pas?
Oui.
Et puis, il y avait votre ami qui, malheureusement, nous a laissé pas tellement longtemps, Monsieur Jacques Ben Simon, que j'ai bien connu. Et en 1984, la loi sur les tribunaux judiciaires confère en français le statut de langue officielle dans les tribunaux au même titre que l'anglais. Donc, on peut passer à la cour ou en cour et demander que sa cause se déroule en français. C'est un atout, on oublie souvent.
Ah oui.
Alors, et puis en 1986, le gouvernement de l'Ontario a adopté la loi sur les services en français. Ça aussi, c'était une très belle victoire pour les francophones de l'Ontario. Mais est-ce que les francophones sont au courant justement de leur droit de demander, d'exiger des services en français?
Moi, je crois que une partie des francophones est bien consciente qu'elle peut, mais... le problème, c'est que ça exige quand même de la paperasse, ça exige des démarches, et que au fond, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans la masse et de dire bon, d'accord, je vais renoncer.
On revient tout de suite, madame, monsieur, avec notre invité, monsieur Daniel Soa. Pour l'instant, le train du Nord, une chanson que vous connaissez sans doute.
Oh, le train du Nord, dans le train pour Saint-Adèle, il n'y avait rien qu'un passager, c'était encore le conducteur, imaginé pour voyager, si c'est pas la vraie petite douleur. Oh, le train du Nord, tchou 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 tchou.
Discarded by the national network, wrapped in plastic and referred to as product by commercial radio, removed from the curriculum by provincial educational authorities, classical music has been driven underground. A rich musical, cultural, and intellectual tradition has been consigned to the rubbish bin, but not at CIUT-FM. This is Philip Conlon. Listen to Classical Underground on Wednesdays at 6 to 8 p.m. as we bring classical music to radio. Mixed with poetry, literature, history, commentary, and plain kibitzing, we celebrate a great musical tradition and do our part to revive this neglected art form.
CIUT 89.5, the new sound of your city.
Become a member of CIUT 89.5 FM before November 9th, and you will be entered into a draw for a chance to win a Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Go to www.ciut.fm and click on the Donate Now button. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Vous écoutez Popourri sur CIUT 89.5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Et oui, madame, monsieur, en direct de la gare Union Toronto. Le train est en gare, le train est à l'heure, 24 heures, et l'équipe des 24 heures du roman sont au rendez-vous, 24 auteurs dans, de l'équipe. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir dans ce studio, ici à la au Hard House Studio, la fondatrice, celle qui a eu l'idée justement de partir ce projet fou, n'est-ce pas, Anne?
Qui a eu cette idée folle.
Alors, justement, pour célébrer ces 400 ans, vous avez réuni 24 auteurs. Et vous avez un des auteurs qui est avec nous aujourd'hui. Qui est-il ?
Daniel Soa.
Oui.
Alors voilà, je ne vais pas vous raconter sa biographie parce que vous pouvez trouver ça sur Internet. Par contre, je peux vous dire qu'il a un très joli accent en chantant parce qu'il est né dans le sud de la France, qui vit en Ontario depuis très très longtemps et que c'est un amour.
Mmh. Il est aussi traducteur.
Doublé ouais. D'un excellent écrivain.
Ouais, ouais, il fait beaucoup de choses, hein. Il y a plusieurs.
Oui, il est aussi traducteur.
Voilà. Oui. Bonjour Daniel. Et...
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien et félicitations. Vous avez vécu justement...
On a survécu.
Survécu, voilà. ce grand voyage. Alors, est-ce que c'était simple? C'était facile? Y avait-il des défis?
Des défis pour moi, pour nous, enfin je suis sûr qu'il y en avait bien plus du côté de l'organisation, mais pour nous il s'agissait d'être claquemuré quelque part et d'écrire pendant 12 heures. Alors oui, c'est un défi, mais c'est finalement ce à quoi nous sommes engagés enfin, en étant écrivain. Donc le défi a été pour moi principalement en fait cette formule qui est le travail. En fait, en groupe, le travail d'écrivain en groupe. La fonction d'écrivain est une fonction solitaire de toute éternité, et donc le travail en groupe, c'est quelque chose qui c'était une contrainte supplémentaire.
Mmh. Voilà. Et pas seulement un groupe homogène, parce que là, il y avait des gens venant de différents milieux, différents pays même.
Oui, bien sûr, il y a des gens qui venaient de différents pays, et puis chacun a son style propre aussi, donc ça aussi, c'est à tenir en considération. Chacun a ses intérêts propres oui. aussi.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de débats entre vous sur justement Champlain au Canada, son parcours? Parce qu'il y a des livres d'histoire oui. qui trouvent que Champlain a menti, Champlain a ceci, Champlain... Est-ce qu'il y avait des débats très intéressants dans le train?
Ben, je crois, moi, enfin personnellement, c'est l'impression que j'ai, c'est que Champlain, le personnage de Champlain lui-même, est tellement monumental et a été tellement traité de foi oui. Par différentes personnes que, en fait, le personnage de Champlain est passé un petit peu au second plan, parce que n'oublions pas que c'est un travail de fiction.
Oui.
Donc, il s'agit pas de refictionnaliser Champlain. Parce que Champlain, on en a mangé à toutes les sauces. Il s'agissait de créer des personnages. Il s'agissait de créer des personnages qui gravitaient autour de l'influence qu'avait Champlain sur ce continent. Et donc, je crois que il n'y a ni eu révérence ni irrévérence vis-à-vis de Champlain. Il y a eu on a établi quelques distances, je pense.
Oui. Est-ce qu'il y avait des points en commun entre les écrivains sur la vie de Champlain?
Ah, sur la vie de Champlain, bah écoutez, chaque écrivain traitait un petit peu une certaine période, je crois d'abord, hein. Donc il a fallu rétablir ça par ordre, enfin établir ça par ordre chronologique d'une part, par ordre logique d'autre part. Donc chaque influence que, plutôt l'influence que chaque écrivain a eue, à compléter celle des autres écrivains.
Mmh. Alors, peut-être, Anne, et vous êtes toujours là, oui?
Oh, moi, je vais nulle part.
Oui, non, j'entends un déclic. est-ce que, justement, quand Anne vous a proposé le projet, est-ce que vous avez embarqué immédiatement ou vous avez eu des moments de réflexion, d'hésitation?
Ça, c'est une question intéressante. Mmh. Oui, je me suis embarqué dessus immédiatement, et pour la raison que je vous ai mentionnée, c'est-à-dire que c'est une contrainte, et la contrainte de travailler en groupe est une contrainte réelle pour un écrivain. Mmh. Et si vous voulez, moi, je suis un écrivain solitaire comme tout le monde, et donc cette nouvelle formule, qu'est-ce que ça va donner? En fait, c'est le problème des défis. Les défis, c'est toujours, est-ce qu'on est capable de faire ça? Alors, on vous propose quelque chose qui va à contre-courant ou à contre-sens de ce que l'on est. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et pour cette raison, oui, j'ai relevé le défi. Parce que je me suis dit, est-ce que je suis capable de travailler de cette manière-là ou non? Ensuite, je me suis félicité d'avoir relevé ce défi parce que j'étais dans ce train avec des gens absolument tout à fait exceptionnels. Mmh. Et cela se révèle, si vous voulez, dans le manuscrit que je suis en train de relire, chacun a sa touche, chacun a sa personnalité, et je vous prie de croire que du point de vue littéraire, c'est vraiment assez extraordinaire. Alors j'espère donner au lecteur la même impression que j'ai moi des autres.
Oui, ça donne envie. Hein.
Mmh. Je suis justement en compagnie de Marcelle Lynn, la fondatrice de Ciné Franco, qui me dit ça donne envie, là, en vous avant d'en parler. Et oui. Je pense que le livre sortira mi-novembre, n'est-ce pas? Oui. Alors on aura l'occasion de voir. Est-ce qu'on va pouvoir reconnaître justement l'écrivain Daniel Soa dans ce livre?
Je pense qu'on reconnaît son écriture, oui. Mais de toute façon, tous les chapitres sont nommés, il y a le nom de l'auteur, donc on n'a pas cherché à créer de mystère ou quoi que ce soit. Chacun écrit en son nom.
Ben oui, j'espère moi ne pas avoir trahi mon écriture.
non,
ce qui serait trahir ma personnalité.
Et où est-ce qu'on pourrait acheter le livre, justement?
Ah, le livre va être vendu en librairie. On va pouvoir l'acheter sur l'éditeur, ses prises de parole, directement sur leur site. Mais il va être en librairie aussi. Oh, hein.
Super.
Donc,
Monsieur Daniel Soa, vous qui êtes ici en Ontario depuis Belle-Lurette, depuis très longtemps, est-ce que il y a de l'espoir pour les auteurs, justement, francophones en Ontario, hors Québec? Parce qu'ils sont très peu connus encore sur la scène internationale.
Mais évidemment, écoutez, c'est un moyen, comme, enfin, je suis sûr qu'il y en a d'autres, de les faire connaître. Le problème, le nerf de la guerre étant toujours la promotion, on peut faire connaître n'importe qui en y mettant les moyens qu'il faut. Le problème, je pense, de cette communauté est que il n'y a pas beaucoup de moyens. Il faut penser à des solutions ingénieuses, il faut penser à des solutions audacieuses, et je pense que c'en est une.
Et peut-être la prochaine étape, le prochain projet fou de Anne Forrest Wilson, c'est de faire un projet avec Air France ou Air Canada et avoir des écrivains tout en traversant l'Atlantique, écrire un livre pendant 8 heures.
Oui, mais il sera plus court vu que la traversée de l'Atlantique est une affaire de 7 heures alors que le train c'était 12 heures. Alors, donc il faudra écrire des nouvelles très courtes. Mais écoutez, non, mais honnêtement, bon, je veux dire, c'était un projet absolument extraordinaire. Ça a été extraordinaire que quelqu'un y ait pensé.
Oui.
Vu la qualité des gens avec qui j'avais affaire, je peux vous dire tout de suite que je suis prêt à m'engager dans n'importe quelle aventure avec eux.
Mmh. Oui. Et c'était des gens qui aussi étaient dans le même optique ou esprit, état d'âme de Anne Forrest Wilson, n'est-ce pas?
Parce
que les gens qui faisaient partie de ce cercle d'auteurs dans ce projet, je dirais qu'ils étaient de la même trempe de Anne Forrest Wilson, parce que eux aussi ils étaient un peu fous. Parce que je les ai rencontrés quelques-uns qui sont venus ici au Canada.
D'accord.
Et ils étaient comme, oui, ils s'embarquaient et puis ils jouaient le jeu, hein, finalement.
Ah oui, ils ont joué le jeu merveilleusement.
tout le monde a joué le jeu. Et ce qui s'est fait jour, à mon avis, oui. C'est une espèce d'extraordinaire complexité, complicité plutôt, et camaraderie.
Fraternité, oui. Moi j'aurais dit même.
Comment?
Fraternité, c'était vraiment...
Ben, fraternité, évidemment, oui, aussi. Non, ça a été extraordinaire de mettre tous ces gens en présence, et ces gens qui se sont respectés mutuellement, qui ont travaillé ensemble, parce qu'il a fallu délimiter le parcours, il a fallu voir ce que chacun fait, etc., etc. Et encore une fois, moi je suis en train de lire ce qu'ont fait les autres, Parce que moi, honnêtement, j'en ai assez de lire ce que j'ai fait. Mais
est-ce que vous avez dormi pendant ces 24 heures ou bien vous avez écrit tout le temps ou jasé, comme on dit, tout le temps?
Bah, écoutez, on n'a pas jasé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une cabine. Hein, oui. Faut pas oublier ça. Donc, à part l'heure des repas, il y a eu deux repas. Et cette activité s'est déroulée entre midi et minuit. Donc minuit, ça donne théoriquement encore le temps de dormir. Hein,
en théorie, oui.
Mais si vous voulez, pendant l'activité elle-même, on s'est plongé dans notre propre écriture, sachant que on ne serait peut-être pas capable d'écrire autant en si peu de temps. Hein. Mais ensuite les rencontres qu'on a faites, moi, vous me demandez si j'ai dormi, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi 2 heures parce que une fois l'exercice terminé,
il y a quand même une espèce
d'énorme excitation quand même qui reste.
L'adrénaline était quand même présente et c'est pas.
Oui, c'est ça. Alors moi, je me suis retrouvé dans le wagon salon. Enfin, j'appelle ça wagon salon avec quelqu'un d'autre, puis une autre personne est venue, etc. Des gens qui avaient, comme moi, des insomnies, plus ou moins. Alors, je pense que je me suis endormi probablement vers 3-4 heures du matin. Mais oui, l'adrénaline coulait à flot. C'était très, très bien. On continue à se poser la question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai bien décrit ceci? Est-ce que j'ai bien décrit cela?
Etc. Mais oui, pas de souci.
Et tout le monde s'est bien entendu. Il n'y a pas eu d'accrochage.
Pas un seul.
Oui.
Mais c'est non, à part celui à qui j'ai donné un œil au beurre noir. Non, je plaisante.
Ah oui, je l'ai vu à la gare Union, celui-là.
Mais aussi, oula. Vous n'êtes pas parti de notre groupe.
Oui. Alors,
c'était le chef de train. Oui.
Oui. Et pour terminer, Daniel Soa, est-ce que ces célébrations de 400 ans de présence française en Ontario, est-ce que ça va porter l'Ontario français à un autre niveau, une autre étape? Est-ce qu'on va avoir une plus grande reconnaissance et visibilité à tous les niveaux, hein, que ce soit dans les médias anglophones, le cinéma ou la culture en général avec un grand C? Est-ce que ça va changer quelque chose chez nous?
Moi, je le crois.
Oui.
Je le crois honnêtement, hein, parce que justement, comme je vous disais, la communauté franco-ontarienne est une communauté qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il faut trouver des solutions audacieuses et ingénieuses pour promouvoir cette littérature-là. Et je pense que c'en est une.
Oui.
Et je pense que déjà, ça, beaucoup de gens en parlent, etc. Pour moi, l'obstacle fondamental, c'est comme toujours. Le transfert sur la communauté anglophone.
C'est ça.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir, parce que, si vous voulez, bon, des super vedettes comme Félix Leclerc étaient illustrissimes en France et totalement inconnus au Canada anglais.
Oui.
Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir promouvoir ce livre auprès des anglophones? Je veux dire, la question reste en plan. Mais du côté francophone, pour rehausser le profil de la littérature franco-ontarienne auprès des Québécois, des Français, des Acadiens, etc., et mutuellement, oui, je pense que ça va faire beaucoup.
Alors, je pense qu'il est temps de vous remercier d'avoir participé, d'avoir été un des auteurs lors de ce voyage. Peut-être Anne aimerait vous adresser un mot de remerciement.
Ah bon? Oh, ben autre chose.
On s'est beaucoup, beaucoup congratulé. Oui. Il sait que je l'aime profondément et que je suis très reconnaissante du travail qu'il a fait. Il s'est très, très bien tenu, donc ça, c'est une bonne chose.
Oui, je tiens bien en général. Hein?
Ouais. Tu as fait beaucoup d'efforts.
Oui. Mais écoutez, et moi, je tiens à remercier Anne pour avoir eu cette idée fantastique, et non seulement l'avoir eue, parce que les idées, ce sont des idées, on en a 13 à la douzaine tous les jours, mais l'avoir mise à exécution et être allé jusqu'au bout dans cette tâche-là, qui est absolument, je vous dis, absolument extraordinaire.
Merci infiniment, Daniel
Soa.
On se reparle très prochainement et j'espère que les gens seront nombreux à courir dans les librairies. Ça va se retrouver un peu partout ici en Ontario, oui.
Alors moi je suis pas l'éditeur, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a un distributeur. Mmh. Ils ont un distributeur.
Et sur votre site, je suis convaincu, il va avoir des mises à jour.
Oui, non, on va faire tout notre possible. Ensuite, on va essayer d'élargir ça à la communauté des écoles secondaires. On va beaucoup travailler pour répandre.
Oui, je vous remercie. Émission spéciale, madame, monsieur, dans le cadre du 400e anniversaire de présence française en Ontario.
Mais c'est moi.
Dans la tête, mille et une raisons de rester à maison, mais toujours attiré par l'œil de la tempête.
Oh non,
y a vraiment rien à faire. L'homme à la moustache, un mauvais caractère.
Oh non,
y a vraiment rien à faire. Il nous tentera ce soir.
Madame, monsieur, le groupe Swing, le groupe très franco-ontarien qui nous invite à danser, à célébrer à notre façon le 400e anniversaire de présence française en Ontario sur CUT 89,5 FM. Ne partez pas, il y a deux autres invités de marque qui nous attendent, qui reviennent tout de suite juste après cette pause.
The 23rd annual Rendezvous with Madness Film Festival, November 6th to 14th, continues to revel in the mysteries of the mind, exploring the facts and mythologies surrounding mental illness and addiction through film, art, and panels. Visit rendezvouswithmadness.com for information.
CIUT 89.5 FM Fall Membership Drive is happening November 9th to November 15th. For more information and to become a member, visit www.ciut.fm. CIUT 89.5 FM, sound of your city.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vingt-quatre auteurs et l'équipe des 24 heures du roman sont au rendez-vous pour décrire cette grande aventure et pour parler du livre écrit pendant le voyage. 400 ans après l'arrivée de l'explorateur Samuel de Champlain en Ontario, ce petit groupe d'écrivains français a suivi les traces de cet aventurier de la première heure. Ils sont franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens. Ensemble, ils ont exploré l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Oui, nous sommes dans le feu de l'action, hein, dans ce train. Oui. Et je pense qu'il y a un autre auteur qui faisait partie du voyage et qui est avec nous.
Bertrand Laverdure.
Oui, qui est actuellement à Montréal.
Qui est à Montréal, oui.
Il est avec nous, Monsieur Laverdure, bonjour.
Bonjour.
Alors, cela nous fait plaisir de vous recevoir dans notre train à nous. À CUTFM, l'Université de Toronto. Alors, ça a été tout un voyage, hein?
Assez mirifique, oui. J'avoue que c'était un fantasme d'adolescence de réaliser, d'écrire un roman en 24 heures. C'est un fantasme que j'ai eu et j'ai pas pu donc assumer avant cette extraordinaire aventure. Très complexe à organiser et donc je me dois de remercier et de rendre hommage encore une fois. On lui a rendu hommage plusieurs fois durant le trajet, à la fin du trajet, à cette Anne Forrest Wilson, cette maîtresse en organisation complexe et en sourire de partout, qui était capable de sourire à gauche, à droite, au milieu, au centre et dans tous les côtés. donc, pour faciliter donc l'organisation qui était... Bon, on a été choyés, c'est ce que ouais. je voulais dire finalement.
Est-ce que vous l'avez pas appelé à un moment donné votre Cléopâtre ferroviaire?
Oui, en fait, j'ai eu un petit problème ce matin. Je me suis dit que peut-être ça a été trop emphatique de le lire, mais est-ce que vous me permettez de
bien
le lire?
Bien sûr, bien sûr.
Oui, alors j'y vais tout de suite pour lui faire un petit peu honte ou bien la mettre mal à l'aise. hommage non négligeable à Anne, ma Cléopâtre ferroviaire. Je suis un militant du souvenir, un bien campé dans ma peau de train, au-dessus d'une table à dîner qui tangue. Dans mon alvéole à chapitre, j'ai sillonné l'histoire au bras d'Anne, ma jante Anne, et aux muscles fictifs de Champlain, de ce Champlain de bois, espèce en voie de développement. Prié de faire frais dans un habitacle lettré au possible, j'ai soutiré la brise nécessaire à mon insertion dans l'histoire. Ici et là, ajoutez maintenant à bonne dose les superlatifs à propos, et s'il vous plaît, ne pas ricaner, car ici, ils prennent tout leur poids. Un superlatif sans rire dans la balance, c'est déjà un exploit, alors ajoutez-en deux autres. Voici mon pain, ma bannique, un pain traditionnel amérindien en passant, mon biscuit quoi, COI. Oui, car mon biscuit pense au sortir du fourneau et se dit que, mon Dieu, dégagé de l'expérience, j'ai bien pris 3 cm, grandi, non métaphoriquement par l'allégresse, non feinte, et que dire de plus à mon désespoir non existant que c'en est assez des formes négatives et qu'à tous les rêves d'astronaute infantile, il ne faut jamais désespérer positivement. Car un jour, un miracle survient et nous avons la joie, très sourire écarté, d'écrire un roman en 24 heures, avec pas des inconnus et même des modèles oulipiens, en panoramie, hauteur, muscade et bon plat. Et puisque vous en avez assez des rimes, j'arrête ici, devant les temps d'un souvenir bègue, car elle est sûre qu'elle va reboire ma bouche parlante dans un avenir incertain. Bref, la formidable, le formidable est à replanifier pour dans 3 ans, et je lui suggère, cette fois-là, les Galapagos.
Donc, c'est bien dit. Vous avez composé ça ce matin, c'est ça?
Oui, c'est ça. Tout exalté par le fait que j'allais reparler à Anne.
Oui, et justement, alors, cette émission vous a inspiré, hein?
Je dirais, oui.
Alors, justement, il y avait des gens venant un peu de partout. Est-ce que c'était compliqué pour vous de travailler, de mettre vos efforts en commun dans ce
voyage? Avant qu'il réponde, je peux dire quelque
oui,
chose?
Oui, bien sûr.
Je serai ta Cléopâtre pour la vie.
Oui, ben oui.
Quelle déclaration.
Quelle déclaration, oui. Ferroviaire ou maritime, parce que les Galapagos, il va falloir faire mieux que le train.
Oui, non.
Donc, la prochaine fois, je serai ta Cléopâtre maritime. Je le promets. Je m'engage aujourd'hui.
Oui. Ça va être une belle aventure, j'en suis convaincu. Oui. Et il y aura plus de passagers, peut-être, à bord?
On espère. Moi, je rêve d'un bananier. Je rêve d'un bananier pour traverser.
Oui, est-ce que justement c'était compliqué pour vous de travailler, de mettre vos efforts à votre copain? Oui.
Je dois vous avouer que j'ai eu peur au départ parce que connaissant bien les écrivains, les pratiquants un peu, ayant organisé plusieurs soirées et ayant participé aussi à des colloques et ayant moi-même donc préparé des numéros de revue, donc ayant eu à traiter avec plusieurs écrivains. Je connaissais un peu leur petit narcissisme sournois et par ailleurs des fois leur amabilité passagère. Mais j'ai été totalement étonné par la collégialité et la collaboration naturelle et les arrimages qu'on a pu faire entre les univers, parce que c'est des univers tout à fait différents, qui ont été arrimés avec ma foi encore là, je veux dire, j'étais étonné partout dans ce projet-là, hein. Tout m'étonnait. Hein, de la cabine minuscule à l'organisatrice qui était fabuleuse et aux écrivains qui étaient tout à fait à l'écoute de tout le monde. Et ça a culminé, en fait, dans une espèce de cercle à Halifax, à la deuxième étage de la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque d'Halifax, que je vous suggère d'aller visiter, qui est merveilleuse, qui est très belle. Et les 24 écrivains, on a donc formé un rond, un cercle, et puis chacun à tour de rôle, on a donc parlé du chapitre qu'on allait écrire. Et puis les gens étaient à l'écoute, et puis on a compris que le livre allait s'écrire, et puis que ça allait pas devenir un cadavre exquis, mais une personne exquis, quelque chose de vivant et non un cadavre, et que ça allait être plus vivant qu'on l'aurait cru au départ. Et puis donc je vous réponds en vous disant j'étais encore là étonné et surpris.
Est-ce que vous étiez, est-ce que le public était avec vous, ou bien vous étiez justement seul dans un compartiment entre vous à écrire?
La journée du 23 au 24, les 24 heures comme telles, nous étions chacun isolés dans nos petits compartiments, nos petits cubicules, nos petites valises avec porte et douche incluse minuscule douche. Mais on se réunissait pour manger, on se réunissait pour faire des agapes, donc dans le wagon restaurant. Et puis c'est là qu'on échangeait, qu'on dévisait et puis qu'on rencontrait les gens puis qu'on se faisait photographier par le photographe
exceptionnel.
Abondamment, on se faisait bombarder et puis qu'on se faisait aussi bombarder par une équipe de TV5 qui était là à nous suivre un peu partout et qui et qu'on devait éviter dans les corridors très très minces qui faisaient à peu près moins d'un mètre de diamètre, pas de diamètre mais de largeur.
Oui. Donc le public n'avait pas accès aux écrivains.
Ah non. Une chance parce qu'on aurait été vraiment dépistolés. Ça aurait été trop.
Oui. Ouais. Alors, on sait que le Québec a célébré Champlain bien avant l'Ontario, n'est-ce pas? Et est-ce que il y a des ressemblances pour vous en étant, vous êtes québécois, hein, c'est ça? Vous êtes du Québec?
Du Québec, oui, de Montréal.
Oui, de Montréal. Alors, est-ce que ça vous a appris quelque chose de plus ou bien vous avez compris que cet Ontario français était une province vraiment vivante? Est-ce que c'était une découverte pour vous en participant dans ce projet?
Eh bien non, c'était pas une découverte pour moi, puis je suis désolé de vous de diminuer votre surprise. Moi, j'ai enseigné un an à Toronto, en 96-97, à l'Université de Toronto, d'ailleurs. Et puis, j'ai des amis, donc, qui travaillent à Prise de parole avant de contribuer au livre qui va être publié chez Prise de parole. Et je suis allé deux fois, quand même, je suis allé deux fois au Salon du livre très dynamique de Sudbury, qui est fabuleusement dynamique, que je vous suggère d'aller fréquenter. Et je connaissais déjà cette fébrilité-là et cette défense acharnée de la langue française, que ce soit à Toronto ou à Sudbury ou dans le Canada francophone et à l'extérieur du Québec. Et donc, j'ai pas du tout été surprise. Mais c'était, par contre, ma première rencontre avec des vrais auteurs acadiens, Gracia, entre autres, et puis ma première visite du Nouveau-Brunswick. Alors, pour ça, j'ai été effectivement dépaysé, un petit peu déstabilisé, mais non, j'ai pas été surpris par la vitalité là, des auteurs provenant de ces régions-là du Canada.
Et la présence des auteurs autochtones dans le groupe?
Je connaissais surtout des poètes. Puis en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que il y a beaucoup de poètes qui ont joué au prosateur dans le cadre du livre et qui ont vraiment relevé le défi avec brio. Et je connaissais de nom, en fait, Jean Sidney, mais je l'avais jamais fréquenté. Et puis Virginia aussi, je la connaissais de réputation, mais je l'avais jamais non plus fréquenté. Et puis encore là, bon, c'est... J'ai l'air d'être sur le piton gelard sur le 220 et d'être toujours au niveau de l'extrême, mais pour une espèce d'expérience inusitée comme celle-là, la réussite, qu'est-ce qu'on dirait, la réussite extrême qui a résulté de tout ça, m'incite à être dans le superlatif, à baigner là-dedans, là, au niveau supérieur. Et puis, effectivement, Virginie et Jean Souy étaient très, très gentils. Et puis, je te tutoie, hein? Animateur que je ne connais point, mais je dois dire que on est arrivé seul et qu'on est reparti avec 23 autres amis écrivains. Mmh. Ouais, voilà. Ça résume le tout.
Bertrand Laverdure, merci infiniment, et en peut-être donnant un indice, est-ce qu'on va reconnaître Bertrand dans cet ouvrage?
Ah, il a fait un tour de force extraordinaire dans le livre. Enfin bon, mais j'arrête pas de me répéter parce que moi aussi je suis dans le superlatif.
Oui.
Après les avoir rencontrés, vécu avec eux, on ne peut être que dans le superlatif, on peut pas redescendre.
Dans le baby blues de l'affaire encore, mais ça va être très facile d'identifier les auteurs parce que au début de chacun leur chapitre, leur nom.
Mmh.
Alors ça va être facile de repérer.
Très bien.
Et j'ai déjà lu le PDF, c'est-à-dire les épreuves du livre, et puis de façon un peu, par-dessus la jambe un peu, puis je me suis fait prendre par le récit. Je me dis, mon Dieu, ça peut intéresser même un public adolescent, le grand public.
Ouais.
Et tout type de public. J'ai bien hâte de voir l'audience que va générer ce livre-là.
Très bien. Alors, je vous remercie infiniment. Nous avons un autre invité tout à l'heure qui va passer avant la fin de l'émission. J'espère beaucoup vous rencontrer, un de ces jours, que ce soit ici à Toronto ou encore à Montréal. Et gardons le contact. Je pense que ce n'est que le début d'une aventure.
Quand est-ce que tu arrives? Quand est-ce que tu arrives?
Repartons demain.
Passez une très bonne journée et merci infiniment encore.
Merci encore.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Bertrand.
Voilà, madame, monsieur, c'était Bertrand Laverdure, très intéressant, comme bonhomme.
Oh, il est extraordinaire.
Alors,
mais ils sont tous extraordinaires,
justement.
Mais il est extraordinaire.
Et voilà, j'invite les gens à aller acheter le livre, madame, monsieur, et vous allez découvrir justement.
C'est un voyage, ce livre est un voyage extraordinaire.
Le Facebook, votre adresse, et aussi
les 24
Twitter,
heures du roman, tout bêtement.
Oui,
je peux ajouter quelque chose, j'ai une très très bonne amie, Anne-Sophie Roy, qui a fait la musique, apparemment, d'une chanson qui est née
dans le train.
Cette aventure.
Ah, qui est née dans le train.
Oui.
Est-ce qu'on l'a, cette chanson?
Elle sera dans le livre.
Les
paroles, puisque c'est du papier, le livre. Et je pense que ça va passer en production bientôt. Mmh. Cette chanson est absolument magnifique.
Ouais.
Ai eu la chair de poule quand je l'ai entendue pour la première fois chanter à Montréal. Elle a été écrite par Jeanne Bézier, qui est une de mes amies qui était venue faire le voyage. Et des paroles absolument merveilleuses. Enfin bon, et très... parfaitement dans le projet, et Anne-Sophie a fait la partie musicale. Elle est très très inspirée par Samuel de Champlain, elles ont fait un travail extraordinaire toutes les deux.
Sur les traces de Champlain, c'est un...
Un voyage extraordinaire en 24 tableaux.
Oui, merci.
Ministre délégué aux affaires francophones et procureur général de l'Ontario.
Bonjour, mon nom est Jean-Marc Fournier.
Ici Damien Robitaille.
Nous sommes Chloé,
Maxime
et Justine Dufour-Lapointe, skieuse acrobatique.
Ici Jacques Martin, natif de Saint-Pascal-Bellon, Ontario.
Je suis Luc Robitaille des Kings de Los Angeles.
Je suis heureux de participer à ce court témoignage qui permet de saluer 400 ans de présence francophone en Ontario.
Une collectivité francophone qui est ouverte sur le monde parce qu'elle est dans une belle diversité.
Vous êtes clairement des gens d'exception.
On le sait, la présence du français en Ontario remonte à 400 ans depuis que Champlain est allé jusqu'à la baie Georgienne dans le cadre de ses premiers voyages. Depuis, une communauté très vivante, très forte, y a pris racine et est encore bien là aujourd'hui, 400 ans plus tard.
De nos jours, l'Ontario est fier de compter près de 612 000 francophones, soit la population de francophones la plus importante au Canada, à l'extérieur du Québec.
On a su résister à travers toutes ces années-là, et la culture continue, notre langue continue.
Et aujourd'hui, on tient à vous souhaiter un bon 400e!
J'adore mes amis ontariens. Je suis Sammy. C'est too much love.
Salut!
Les 24 auteurs et l'équipe des 24 heures du roman sont au rendez-vous pour décrire cette grande aventure et pour parler du livre écrit pendant le voyage. Une émission spéciale de CUT 89,5 FM en collaboration avec les 24 heures du roman et Anne Forrest Wilson. Et maintenant, vous allez nous présenter le dernier invité.
Alors, le dernier invité était un de nos réviseurs sur le train. Alors, réviseur ou réviseuse, parce que je ne sais pas si c'est Gaël ou Alain Vercollier qui vont parler.
Alors, on dira, on va voilà, poser la question.
On va faire,
allô, qui est là?
C'est Alain. Oui. C'est Alain, bonjour Alain.
Bonjour Anne.
Bonjour professeur Vercollier, ça va?
Écoutez, ça va très bien.
Oui, et ben merci d'avoir accepté notre invitation et de jouer le jeu. Nous sommes dans le train en ce moment, vous avez entendu là les sifflets et ronronnements
ce
du moteur.
Ce train ne s'arrêtera jamais. Ce train ne s'arrêtera jamais.
Dans notre situation de réviseur, oui.
Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous d'embarquer dans ce projet fou d'Anne Forrest Wilson, professeur Vercollier?
Non, mais en plus, il y a déjà au départ l'enthousiasme d'Anne, qui est très communicatif. Ouais. Alors, non, en plus, je trouve que c'est un projet qui était intelligent. En plus, il a été mené de main de maître. Alors, non, ça a été une très, très belle expérience.
Oui. Alors, vous n'avez pas voyagé avec... Oui, elle était dans le voyage.
Oui, bien sûr.
Ah oui.
Ils avaient leur cabine.
Retour.
Dans le voyage.
Vous n'avez pas comme si... comme faire une diversion.
C'était en fait un livre en 24 heures. Donc, il y a eu une période d'écriture.
On est embarqué dans le train à partir d'Halifax.
Ouais, ouais.
Donc, on a fait tout le chemin d'est en ouest. Ouais.
Donc, vous n'avez pas pris de passagers en passant par Montréal?
Non, nous, on a fait le voyage comme les auteurs, là, on les travaillait.
Oui. Ils ont travaillé.
On savait que tout ce qu'ils écrivaient, il allait falloir le lire.
Oui, oui.
Ça a été un plaisir.
Oui, c'est aussi un défi, parce que là, vous avez des auteurs venant de partout et qui ont leur touche personnelle, une écriture très personnelle aussi. Est-ce que ça a été un défi pour vous, justement, pour éditer tous ces textes?
Mais, oui, il faut reconnaître la variété, parce que à la fois dans la tonalité, on avait des textes parfois humoristiques, d'autres plus didactiques, d'autres qui étaient franchement poétiques. D'ailleurs, le dernier qu'on a eu à corriger, pas à corriger, mais disons révisé, était d'une très très haute qualité poétique. Mais chaque texte avait son charme, avait ses qualités, non? Bon, disons que la syntaxe n'était pas toujours la même. Mais c'était pas notre but, hein. On n'était pas professeur à corriger des élèves, on était des personnes à apprécier des auteurs et des créateurs. Donc c'était tout à fait différent. En plus, les textes étaient de très belle qualité.
Mmh. Vous êtes ici depuis très longtemps. Vous avez enseigné pendant de très longues années.
Oui,
vous avez
vous
avez vu l'évolution de cette francophonie à partir de des manifestations, des je dirais, les gens ont dû se battre pour avoir des services en français, pour avoir des écoles en langue française. Professeur Vercollier, célébrant les 400 ans de présence française en Ontario, qu'est-ce que ça vous dit personnellement?
Mais moi, je dirais que la communauté est de plus en plus vivante. On la remarque, elle prend sa place, elle a des initiatives comme celle-là qui montrent une belle vitalité. Moi, je me sens bien à l'aise dans cette communauté qui est très variée, qui vient de... On a des apports qui viennent de tous les horizons. Non, moi, je trouve que c'est plutôt positif et ça donne de l'espoir.
Oui. Et nous sommes très heureux, justement, que même si vous avez pris votre retraite, mais vous continuez quand même toujours d'être présent, comme par exemple participer dans ce projet. Est-ce que cela a été difficile pour vous?
Il faut dire qu'on était toute une équipe. Ouais. Je n'étais pas seul. On était déjà 4 profs d'université. Et puis tout autour de nous, il y avait une personne qui représentait la maison d'édition. Elle, c'était la réviseuse officielle. Et puis on a eu des bénévoles de qualité avec nous. Il faut dire qu'on a commencé de 10h du soir à 4h du matin. Je dirais que physiquement, c'était une épreuve. Parce que vers 4h du matin, on commençait à faiblir. Mais il était temps, c'était bien. On a terminé d'ailleurs par un très très beau texte poétique où l'auteur... imaginait être l'océan lui-même portant Champlain vers d'autres horizons. C'était très beau.
Est-ce que cela vous a aidé à découvrir d'autres aspects, facettes de cet homme mystérieux?
Je le connaissais que par les livres d'histoire, et là, effectivement, oui. On avait le plaisir de se rencontrer quand même lors des repas, et j'avais autour de moi, et Claudine et Gaëlle avaient avec nous parfois des auteurs qui, eux, connaissaient très, très bien la vie de Champlain. Et j'ai beaucoup appris, oui.
Oui. Alors, si c'est à refaire...
je le refais répondrez... tout de suite.
Ah, oui, oui. Et peut-être dans un bateau, cette fois-ci, un avion.
Je ne sais pas, on verra quelle est la... Oui, moi, je crois qu'un bateau, ça serait excellent. Je compte sur Anne pour avoir une autre idée géniale.
Ouais, ouais. Est-ce que vous pensez que tous les francophones, francophiles, les anglophones ont eu l'occasion de célébrer un peu la culture francophone en Ontario, ou bien il reste encore beaucoup de chemin à faire pour faire reconnaître et rayonner les richesses de cette communauté francophone?
Oui, écoutez, déjà, je trouve que la célébration des 400 ans de présence française était un bel événement qui a duré d'ailleurs sur plusieurs mois. Donc on a été très, très sensibilisés et c'était une belle occasion de se regrouper. Et puis, n'importe comment, on peut toujours faire plus. Oui. Moi, je crois que des initiatives comme celle d'Anne montrent qu'il y a parmi nous des personnes qui ont beaucoup d'imagination. Et je pense que... Non, j'ai vraiment confiance. Là, on peut toujours faire plus et c'est ce qu'on fera. Toujours plus haut, c'est ça.
Ah, c'est ça. Viser plus haut, miser plus haut, viser
plus
haut.
Ben voilà, toujours plus loin. On peut aller jusqu'à Vancouver. Oui. Mais on est bien en Ontario. Je pense que si les franco-ontariens venus de tous les horizons savent se regrouper... La cause est tout à fait défendable et c'est un plaisir.
Oui, je pense que le dernier chiffre du bureau de Mme Meilleur parle de plus de 600 000 francophones. Il faut bien admettre que nous sommes plus nombreux comme communauté francophone hors Québec.
Oui, c'est bien. Le problème, c'est la visibilité.
Oui.
Mais là, je pense que...
Et peut-être un jour que l'Ontario sera parfaitement bilingue. Que la ville de Toronto sera aussi une ville bilingue. Pourquoi
pas? On l'espère. Bonjour Alain, c'est Marcel.
Alors Marcel Lynn, qui est avec nous, la fondatrice de Ciné Franco, qui vous dit bonjour.
Ah ben moi, je salue aussi.
Très bien.
Ce sont des amis.
Oui, alors je vous remercie infiniment. À chaque fois qu'il y a un projet touchant la francophonie, touchant la radio, vous répondez toujours présent au nom de toute l'équipe et des 24 heures du roman. Un grand merci.
Eric, ça me fait plaisir.
Oui. Passez une bonne journée et bien
merci,
bonjour à la famille. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Alain.
Voilà, mesdames, messieurs, émission spéciale. Hey, hey, est-ce que vous entendez les cris de la lumière? Et oui, c'est la chanson thème. On va tirer notre adhérence dans un instant, mais nous allons laisser encore le temps aux gens d'apprécier cette chanson qui a marqué les célébrations. C'est pas fini, hein? On finit la célébration à la fin de l'année, sans doute. Oui.
Bah, il y a eu la cérémonie de fin. Bon, voilà, nous, on n'arrête pas jamais.
Oui,
hein,
on continue. Jamais, bien sûr. Et continue à chanter, madame.
C'est super.
Je sais qui je suis. Sur ce grand chemin, je sais que pour toujours, on est de la famille. On vient de partout autour du monde et nous sommes tous réunis ici. Alors encore une fois, il est temps, levons nos voix.
Spéciale dans le cadre du 400e anniversaire de présence française en Ontario et grâce à ce train de VRI, nous avons pu voyager à travers des écrits mais aussi des auteurs, mais à travers celle qui est l'âme dans ce projet. Dans tout projet, ça demande quelqu'un qui initie et qui rassemble et qui porte très haut et fort. Et je sais que c'est un risque, parce que, premièrement, de se faire comprendre, d'être accepté, et aussi trouver du financement pour que le projet se réalise. Et je suis convaincu que Anne Forrest-Wilson ne nous dit pas tout, mais vous n'avez pas eu, je pense, un financement égal, comme tant d'autres projets, pour justement dans la réalisation de cette aventure, parce que ça aurait été encore plus fabuleux, je pense, si vous auriez pu compter dès le départ, hein, parce qu'il a, moi je vous ai suivi, on a eu beaucoup de contacts, de rencontres, et à un moment donné ça n'allait pas là, on voyait qu'il y avait des hésitations, il y avait des changements de rail dans certaines
et pas automatique, hein.
Oui, justement, et je pense qu'il faut que les auditeurs sachent monter un projet pareil de telle envergure, c'est pas si simple. Tout le monde regarde le résultat aujourd'hui, on applaudit, on est content, mais parlez-nous un petit peu justement de ces obstacles et des défis.
Il y a eu beaucoup d'obstacles parce que moi je sortais de nulle part il a fallu, enfin j'ai tout découvert en même temps, donc j'ai vraiment creusé mon sillon. Et je dois dire que c'est à partir du mois de mai, quand on a fait une levée de fonds, que j'ai su que ça allait vraiment se faire, quand Via Rail a pris en charge le train, puisqu'on était dans un train, que c'était un gros morceau du budget. Alors bon, faut être honnête, j'ai pas réussi à avoir le budget totalement, donc ça a été très très compliqué. Et puis bon, maintenant, il va falloir rembourser les dettes. Mais ça m'est égal quelque part. Je me suis engagée à fond. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. J'espère. Je me suis toujours dit que si tout était simple, n'importe qui y arriverait. Donc, c'est vrai que ça place la barre très haut et que j'y ai toujours cru de A à Z. Et je dois dire que beaucoup des gens qui n'ont pas le pouvoir financier m'ont énormément soutenue. Et que de les entendre tout le temps, leurs encouragements étaient toujours présents. Chaque fois que les auteurs, parce que j'ai travaillé pendant un an avec tous ces auteurs, donc on a eu pour certains beaucoup de contacts, pour d'autres un peu moins, mais il y a toujours eu une communication entre eux et moi, et ils m'ont aussi beaucoup soutenue parce que ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient émerveillés, et jamais j'ai douté qu'on irait jusqu'au bout, mais je dois dire que quand Via Rail a dit quelle était leur participation, là je me suis dit ok, c'est bon, tout le reste on va y arriver. Et voilà.
Le financement de la France aussi a aidé les passages, les voyages.
La France a énormément contribué. Ouais. Donc, c'est vrai que s'il y a un tout petit bémol à apporter, c'est même si l'Office des affaires francophones, ils ont été très présents, ils m'ont beaucoup épaulé. Je me dis, si je devais faire un projet qu'avec des Canadiens, j'y serais pas arrivée, avec des fonds canadiens. Donc là, heureusement, comme j'avais la présence de Français, la France a vraiment répondu présent c'est ce qui a sauvé le projet. Ouais. Entre Via Rail, qui bien sûr est canadien, donc la présence canadienne, le financement canadien a été sous la houlette de Via Rail a été vraiment important. Mais pour tout ce qui est pour tout le reste, le Québec a bien financé. Les autres provinces ont financé en proportion par rapport au nombre d'auteurs qui venaient, qui représentaient. En revanche, en Ontario, ça a été très très difficile. Et puis au niveau du fédéral, on a eu quelques mauvaises surprises. Le projet était aussi très en dehors des normes. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question, faire des choses extraordinaires que tout le monde apprécie, qui ont une valeur. Moi, c'est pas à cause de mon travail, c'est vraiment le résultat final. Ce livre est absolument magnifique. Prise de parole a fait un travail absolument extraordinaire parce qu'ils sont, c'est vraiment eux les créateurs. En bout de ligne, ils ont fait un travail important. On a apporté une chanson, un livre, un jeu bilingue. Et j'espère qu'on va commencer à nous faire confiance et qu'on aura un petit peu moins de difficultés à faire d'autres projets. Parce que comme je vous l'ai dit, je deviens canadienne demain. Donc, félicitations.
Oui, bien sûr.
C'est un grand
bravo.
Moment.
Oui,
ils m'ont envoyé ma petite lettre pendant que j'étais dans le train. Je l'ai trouvé à mon retour, absolument épuisée. J'avais cette date du 2 novembre. Je suis très, très contente parce que j'aime beaucoup vivre ici. Je suis très, très bien ici. Mais j'ai envie de continuer à faire des choses avec la France et le Canada.
D'autres aventures, aventures en aventure. Oui. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Alors, si vous voulez recevoir ces petits cadeaux, ces cartes, justement, pour célébrer les 400 ans de présence française en Ontario, appelez-nous au 86 9 46 7000 ou encore envoyez-nous un message tout au long de la semaine. C'est pot.pourri@sympatico.ca. Je vous rappelle aussi que nous avons notre campagne de The Sound of Your City, le son de votre ville, qui démarre dès cette semaine. Et la semaine prochaine, nous allons faire appel à vos dons. C'est grâce à vous que nous sommes là en ondes depuis 28 ans. Et justement, nous avons pu, grâce à ces bénévoles, grâce à vos dons, garder l'antenne pour une autre année, pour parler de 24 heures du roman et passer 2 heures ensemble, parce que c'est ça notre mission, c'est de reconnaître les richesses et les talents de ces gens qui ne sont pas connus. C'est pour cette raison que cette émission existe, de donner la voix aux sans voix. C'était le slogan au début, et je pense que ce slogan, malheureusement, demeure vrai encore aujourd'hui. Alors, cette émission, cette radio, c'est pour vous. Marceline, vous êtes là depuis très longtemps.
Oui.
On se connaît, n'est-ce pas?
On se connaît
vous
bien.
Vous aussi, vous vous battez pour avoir le financement qu'il faut pour réaliser votre festival de cinéma. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Beaucoup, beaucoup de chemin.
Très important de soutenir toutes ces activités culturelles. Il ne faut pas, parce que voilà, il n'y a pas que la musique.